France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Ce pourrait être un accord historique. Le candidat écologiste à la mairie de Paris, David Belliat, a annoncé ce matin qu'il était prêt à retirer sa candidature en profit de celle du socialiste Emmanuel Grégoire. Une possible alliance donc destinée à renforcer le camp de la gauche face aux ambitions de la candidate des Républicains Rachida Dati. À suivre également une cyberattaque de grande ampleur au camp des pirates ont réussi à s'introduire dans les systèmes informatiques du ministère de l'Intérieur. On reviendra sur la disparition d'un maître de l'absurde et de la transgression, l'auteur de bande dessinée Edika, l'un des piliers de Fluide Glacial, décédé hier à l'âge de 84 ans. Et puis l'actualité à l'étranger, c'est notamment l'administration américaine qui accentue un peu plus encore la pression sur le régime vénézuélien. Enfin, avec notre invité, on tâchera d'apprécier la bonne santé ou non de l'économie des États-Unis. Les résultats ne sont pas attendus avant ce soir, mais d'ores et déjà, en appelant ce matin les écologistes à voter pour une liste commune des forces de gauche dès le premier tour des municipales à Paris, l'adjoint actuel à la mairie de la capitale, David Belliat, lequel était lui-même jusqu'à présent candidat, a semé les graines d'un accord potentiellement historique. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
L'écologiste s'est donc dit prêt ce matin à renoncer à sa candidature pour sceller une union de la gauche derrière l'ex-premier adjoint socialiste Emmanuel Grégoire, ce qui, le cas échéant, Adrien, serait tout simplement inédit.
Oui, depuis les municipales de 1989, où l'on voit pour la première fois le mouvement écologiste parisien percer dans ce scrutin, mais surtout, à partir de 1995, les Verts ont toujours été en mesure de peser au premier tour à Paris, forçant ainsi à des alliances au second tour, avec Bertrand Delanoë, puis Anne Hidalgo. Aujourd'hui, rien n'a changé en termes de poids politique. Le dernier sondage Ipsos pour le Parisien, publié la semaine dernière, conforte même David Belliat en deuxième position des intentions de vote à gauche. On a une très bonne dynamique de campagne, confie encore ce matin un de ses proches. C'est pourquoi les négociations entre les deux camps ont été longues et parfois difficiles. Le prix de l'alliance est très cher pour le PS. Des sièges au Conseil de Paris, les écologistes obtiendraient 36 places éligibles contre 28 actuellement. Les socialistes leur céderaient également un de leurs bastions, la mairie du 11e arrondissement, qui reviendrait à David Belliat. Ce qu'il faut lire entre les lignes de l'accord, selon l'état-major écologiste, c'est que rien n'est plus important que la victoire de la gauche. Et c'est là la grande différence avec les précédents scrutins. Tous craignent de voir basculer Paris à droite, d'autant que les victoires de la gauche en 2014 et 2020 n'ont pas été si simples à gagner, rappelle un communiste parisien. Rachida Dati mène une campagne qu'à gauche on qualifie de brutale et bruyante. On craint également une possible union des droites avec le RN et Reconquête derrière la ministre. Dans l'entourage d'Emmanuel Grégoire, on juge donc que cette alliance, qui inclurait aussi place publique et l'après, dès le premier tour, permet à la fois d'arriver devant Rachida Dati dans les intentions de vote au premier tour, mais aussi de court-circuiter la candidature insoumise de Sophia Chikirou, qui pourrait se retrouver elle aussi au second tour. Autrement dit, de faire du bulletin d'Emmanuel Grégoire le seul bulletin de vote utile contre la droite.
Merci Adrien Toffolet.
Avec 15 voix d'avance, les députés ont définitivement adopté hier la loi de financement de la sécurité sociale.
Oui, c'est le tout premier texte budgétaire ainsi validé sans l'aide du 49-3 depuis l'absence de majorité absolue dans l'hémicycle. Alors, pour Sébastien Lecornu, cette étape couronne au moins temporairement une méthode riche de consultations et surtout de concessions successives. En revanche, les tractations sur le budget de l'État, cette fois-ci, se poursuivent et leur issue s'annonce bien plus complexe, alors même que se rapproche la date butoir du 31 décembre.
Des dizaines de fichiers confidentiels et son cible volée au ministère de l'Intérieur.
C'était la semaine dernière, un ou plusieurs hackers se sont introduits pendant plusieurs jours dans les systèmes informatiques de la place Beauvau. Alors on ne connaît pas encore l'ampleur exacte de la compromission, mais on parle là tout de même de millions potentiels de données. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour.
Comment une telle intrusion a-t-elle été rendue possible? Je rappelle qu'on parle là de la place Beauvau, c'est-à-dire l'un des temples de l'administration française a priori les plus sécurisés.
Eh bien, l'assaillant est tout simplement passé par les boîtes mail d'employés qu'il a espionnées pour récupérer des mots de passe, lesquels mots de passe étaient échangés par écrit sans aucune précaution. Ajoutez à cela qu'aussi surprenant que cela puisse paraître, le ministère de l'Intérieur n'avait pas déployé la double authentification, ce système sécurisé de vérification sur un second appareil comme un téléphone portable, et vous obtenez donc une brèche de sécurité dans des logiciels et des fichiers sensibles. Sont concernés notamment le fichier des personnes recherchées et le traitement d'antécédents judiciaires qui regroupent accusés et victimes d'affaires pénales. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, se voulait optimiste mais prudent sur France Info.
Ce que je peux vous dire ce matin, c'est qu'il n'y a pas eu extraction de millions de données. À ma connaissance, c'est faux, mais je reste très prudent sur le niveau des compromissions.
Car depuis samedi dernier, un message apparaît sur un forum spécialisé Bridge Forum. Message en forme de revendication d'une attaque massive. 16 millions de personnes seraient concernées. Dans d'autres services aussi, comme la Caisse d'assurance vieillesse ou la Direction des finances publiques. Nicolas Arpagian est consultant en cybersécurité. Il juge peu probable que l'attaque se soit limitée à quelques fichiers.
Je pense que quand vous avez l'opportunité de vous insérer dans le système et de naviguer à votre guise parce que vous avez trouvé un point de faiblesse, en fait, vous vous contentez pas de ça.
Indice selon l'expert, la finalité de l'attaque, pas seulement récupérer une rançon, mais nuire publiquement au ministère.
Là, manifestement, il y a une volonté aussi de publicité, d'amplifier, de mettre en difficulté l'institution par la communication.
De quoi craindre, selon lui, des fuites plus importantes que ne l'explique Beauvau.
Merci Valentin Gris. Une autre forme de vol, ou plus exactement d'escroquerie, la fraude systémique liée à des contrefaçons ou des produits ne respectant pas les normes et importés en France via les plateformes de commerce en ligne, le plus souvent chinoises. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
Les députés d'une mission spéciale doivent remettre leur rapport aujourd'hui avec au total 29 propositions donc pour lutter, Camille, contre l'arrivée massive de ces marchandises frauduleuses.
Oui, massive, hein, c'est le mot. On parle de 4,5 milliards de petits colis livrés dans l'Union européenne l'an dernier, soit 12 millions par jour. La très grande majorité achetée sur les plateformes chinoises, Temu, Shein et AliExpress. Et à l'arrivée, seuls 82 produits importés sur 1 million sont vraiment contrôlés par les services de douanes européennes. Et pourtant, une opération des douanes françaises au mois de novembre a montré que 8 produits contrôlés sur 10 n'est pas conforme à nos normes ou étaient contrefaits. Or, précise le rapport parlementaire, ces marchandises importées, elles représentent 56% de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont en quelque sorte externalisées, hein, hors de nos frontières. Le rapport préconise donc d'adopter une taxe, non pas de 3 euros pour chaque petit colis comme va l'imposer l'Union européenne dès l'an prochain, mais bien 5 euros par colis en France pour donner aux douanes européennes les moyens de vraiment faire leur travail, mieux coordonner aussi les travaux des différents services douaniers de l'Union, simplifier leur exercice en l'adaptant notamment au contrôle non plus des cargos dans les ports, mais bien des dizaines d'avions de marchandises qui atterrissent chaque jour de Chine et qui inondent le marché européen. Enfin, sur les produits illégaux vendus par les plateformes. On pense au scandale des poupées à caractère pédopornographique trouvées sur Shein notamment. Les députés demandent que si le producteur ne peut pas être identifié et poursuivi, ce soit le site qui les vend en ligne qui soit jugé responsable et suspendu en France. En somme, conclut le rapport, si les lois françaises existantes étaient déjà appliquées aux produits importés de Chine, beaucoup ne passeraient pas nos frontières.
Merci Camille Manière.
Assistera-t-on à un énième procès de Nicolas Sarkozy ?
La menace se précise. Pour l'ex-président, hier, le parquet national financier a demandé le renvoi de 11 personnes, parmi lesquelles l'ancien chef d'État et son épouse, dans l'affaire dite Sauvé Sarko, la rétractation possiblement monnayée de l'intermédiaire Ziad Takieddine, aujourd'hui décédé, témoin à charge dans l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 et qui avait fini par retirer ses accusations. Connu pour abriter le mystère éternel d'un demi-sourire, on ne peut pas dire que le lourd soit en ce moment même spécialement traversé par la joie. Nouvelle épreuve pour l'institution en crise. Ce matin, la grève des salariés a été reconduite, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs la direction d'annoncer une ouverture partielle du musée. Quant à la présidente Laurence Descartes, elle sera à nouveau entendue en fin de journée au Sénat sur les failles de sécurité au sein de l'établissement. Il y a quelques années, le célèbre magazine Fluide Glacial avait fait une entrée remarquée au Louvre, justement avec un album humoristique d'anthologie où la beauté des plus grandes œuvres au temple mondial du raffinement côtoyait la folie décalée forcément des plus grands auteurs de bande dessinée, parmi lesquels un certain Edika, de son vrai nom Édouard Karalil, dessinateur d'origine égyptienne, maître de l'absurde, est décédé hier à l'âge de 84 ans, la veille de son anniversaire, comme une ultime fulgurance de son humour grotesque, marquant là peut-être aussi la fin d'une époque, celle d'une BD à dessin irrévérencieuse. Estelle Camerer, bonjour.
Bonjour.
Pilier du magazine Fluide Glacial, Edica était un homme plutôt timide, incroyablement délicat, écrit ce matin son éditeur, à l'inverse donc de son humour à la fois cru et délirant.
Et trash, lorsqu'on entend son nom, tout de suite nous viennent en tête les images de ses obsessions sexuelles, ce qui transparaît dans ses premières planches pour Fluide Glacial en 1979, le magazine de ses rêves, fondé par son idole Gottlieb. Edica en devient rapidement l'un des piliers grâce à son style et les détails crus qu'il n'hésitait pas à utiliser pour dessiner les corps. Son chat vert, Clark Gable, en est l'exemple ultime. Gros seins, poils aux jambes, énorme nez rouge, slip kangourou sale et trop grand. Clark Gable était le troisième enfant de la famille Proko, avec le père, Bronski, dessinateur, la mère au foyer, Olga, la fille, George, et le fils, Nini, personnage récurrent de ses gags sur les conflits familiaux. C'est d'ailleurs avec Bronski qu'Edica se met lui-même en scène pour partager son angoisse de la page blanche et son impossibilité de trouver une chute à ses blagues, trop d'idées et trop de doutes qu'il essayait de balayer, comme il le dit, avec une légère timidité dans la voix, au micro de Toufi Kakem dans l'émission Un autre jour est possible sur France Culture en 2013.
Ça faisait partie de ma période un peu folle où j'avais envie de m'étonner moi-même, etc. J'étais très extrême dans le vouloir d'étonner le lecteur. J'arrivais vers la fin de l'histoire, je me dis, ok, en principe, le lecteur s'attend à ce que je termine de cette façon-là, donc tout est encore possible, tout est encore possible.
Tout est encore possible, la preuve, hier, Edica a trouvé sa chute. Il laisse derrière lui 37 albums publiés chez Fluide Glacial et une forme d'humour inégalable.
Merci Estelle Camerer. Le prix roman des étudiants France Culture 2025 a été attribué ce matin à Sephora Pondy pour Aval, publié aux éditions Grasset, l'autrice également metteuse en scène, scénariste, actrice, pensionnaire de la Comédie Française, sera cet après-midi à 15h l'invité du Book Club de Marie Richeux.
Midi passé de 41 minutes, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Qu'il ait ou non la personnalité d'un alcoolique, ainsi que le soupçonne sa propre directrice de cabinet, Donald Trump devra certainement s'enivrer de beaucoup de messages d'espoir pour réussir à convaincre ce soir à la télévision une majorité de ses compatriotes déçus par sa politique économique, que non seulement l'année écoulée a été excellente, mais surtout que le meilleur reste à venir. Sauf que la vision positive du président ne tranche pas qu'avec l'inquiétude générale exprimée dans les sondages, mais aussi la réalité des chiffres qui viennent préciser la tendance de la conjoncture actuelle. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Thérèse Robillard, professeure des universités en économie au CNAM et chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail. Bonjour madame.
Bonjour à vous.
S'agissant du marché de l'emploi, en l'occurrence, le taux de chômage est à son plus haut niveau depuis 4 ans. Qu'est-ce que cela nous dit de la santé économique des États-Unis ?
Alors en réalité, ça dépend un petit peu ce qu'on regarde. Effectivement, sur le taux de chômage, on constate qu'il y a une augmentation légère et régulière qui touche l'ensemble de l'économie américaine sur l'année. Mais au sein même de ce taux de chômage, il y a des inégalités assez marquantes. Donc si on regarde par exemple le taux de chômage des Afro-Américains, il est supérieur à 8%. Donc on voit des inégalités qui avaient commencé à se résorber, qui réapparaissent sur le marché du travail américain. Et on a des indicateurs qui sont un petit peu ambivalents. Par exemple, si on regarde le nombre de personnes qui occupent des emplois à temps partiel pour des raisons économiques, ça représente une toute petite partie de la population active américaine, parce que c'est 3% de cette population américaine, de cette population active. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que sur la dernière année écoulée, le nombre de personnes qui déclarent occuper des temps partiels pour des raisons économiques, donc c'est ce qu'on appelle des temps partiels contraints, ce nombre a augmenté de 20%. Donc ça veut dire qu'on constate qu'effectivement, il y a un petit caillou dans les rouages de l'économie américaine sur le marché du travail.
Mais ça, ça veut dire un ralentissement économique du côté des entreprises ?
Alors, c'est ça qui est un petit peu ambivalent. C'est qu'en réalité, ce taux de chômage, il masque aussi une grande partie de ce qui s'est passé sur l'emploi fédéral. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de cette hausse du taux de chômage qui concerne l'emploi fédéral américain, donc l'emploi public fédéral. Et donc sur cet emploi public fédéral, on n'a pas complètement les chiffres. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des emplois fédéraux qui, en réalité, ont donné lieu à des licenciements dès le début de l'année, donc sur les 3 premiers mois de l'année par le Dodge. Mais ces chiffres-là, en fait, on les voit apparaître sur les données de septembre et d'octobre, parce que c'est des emplois qui avaient été mis en pause et qui, en réalité, correspondent à des licenciements qu'on observe maintenant. Donc, ça, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que le chiffre du taux de chômage n'est pas bon, mais il masque quelque chose qui correspond à une stratégie de Donald Trump qui était de se séparer d'une partie de la population en emploi au niveau fédéral. Alors, il y a un autre élément.
Dites-moi, oui.
Oui, l'autre élément, en fait, c'est l'impact de l'intelligence artificielle. Donc, on sait aussi qu'il y a des ralentissements de l'emploi, et ça, ça touche vraiment le secteur privé, notamment au niveau des nouveaux entrants sur le marché du travail, et en particulier des plus qualifiés.
Vous évoquiez tout à l'heure la stratégie du président américain. Il se trouve qu'il y a moins d'une semaine, la Fed, donc la banque centrale, a choisi de baisser ses taux directeurs pour stabiliser le marché de l'emploi, au risque de voir l'inflation grossir encore un peu plus. Par cette décision, la réserve fédérale rejoint en réalité un souhait que Donald Trump lui-même avait exprimé déjà de longue date dans une forme de bras de fer politique avec l'institution. Est-ce qu'il faut en déduire que Donald Trump fait ici le choix de l'emploi contre celui du coût de la vie?
Alors, très probablement, lorsque lui l'a souhaité, c'est-à-dire lorsqu'il a souhaité que la Réserve fédérale baisse ses taux au moment même où il a mis en place les droits de douane, cet arbitrage n'était pas fait ainsi, puisque l'objectif, c'était en réalité de booster au maximum l'activité économique au moment de la mise en place des droits de douane pour faire en sorte que cette activité économique vienne tamponner les effets de la hausse de l'inflation. Donc le fait que la Réserve fédérale réagisse avec retard pour se concentrer sur la cible de l'emploi, finalement, ne permet pas à Donald Trump de jouer sur les deux tableaux, parce que vous l'avez dit, effectivement, l'inflation, du coup, peine à se résorber puisqu'on est au-dessus des 3%.
Il semble que les chiffres les plus récents indiquent que le déficit commercial s'est légèrement résorbé ces derniers mois. Est-ce que cela veut dire que, s'agissant des droits de douane que vous évoquiez à l'instant, Donald Trump a réussi son pari ?
Alors, si on regarde plus en détail, la lecture qui va en être faite de son côté sera sans doute celle-là, c'est-à-dire constater que sur échéance de quelques mois, le déficit commercial s'est fortement résorbé. Malgré tout, si on regarde l'évolution du déficit commercial depuis un petit peu plus d'un an, on constate une tendance qui correspond en fait à une réaction des entreprises à ce qu'ils savaient être la politique de commercial de Donald Trump, puisque en réalité le déficit commercial s'est creusé de manière très importante sur les premiers mois de l'année, avant même l'annonce des droits de douane, étant entendu que les entreprises savaient pertinemment que lorsque Donald Trump retournerait au pouvoir, il y aurait à nouveau, à minima, une guerre commerciale avec la Chine. Le fait est qu'elle s'est largement étendue, donc à cette époque-là, les premiers mois de l'année, les entreprises ont fait des stocks, et donc sur ce qui est des stocks de biens de consommation, donc si on exclut la question des services, eh bien les entreprises, le reste de l'année, puisent dans leurs stocks, donc elles n'ont plus besoin d'importer autant, ce qui vient d'ailleurs atténuer l'effet prix des droits de douane, puisque finalement elles s'appuient sur des stocks qu'elles ont achetés en début d'année. Et c'est ça qui explique le déficit commercial favorable à Donald Trump et sur lequel il va très probablement communiquer largement.
Je l'évoquais en introduction, à en croire les derniers sondages, plus de la moitié des Américains estiment que la conjoncture se dégrade, que l'inflation accélère. Diriez-vous que la hausse des prix est aujourd'hui le principal critère sur lequel les Américains jugent la politique économique de Donald Trump ?
Alors c'était déjà le cas au moment des élections, puisque c'était le principal critère électoral. Ce qui se produit actuellement, c'est que au-delà de son opposition, au-delà de l'opposition démocrate, les Américains commencent à réaliser qu'effectivement, ça n'est pas la cible prioritaire de sa politique économique. Malgré tout, lui aura toujours la même réponse qui est de dire « mais attendez, les meilleurs des résultats sont à venir ». Et si on regarde un simple chiffre qui est celui de la hausse des salaires, eh ben, ça lui donne pas complètement tort, en tout cas en termes de stratégie de communication, puisqu'on constate qu'en moyenne, les salaires ont augmenté plus vite que l'inflation. Donc c'est une manière de dire aussi, bah, voyez, en réalité, vous pensez que la vie est plus coûteuse alors que vous avez gagné en pouvoir d'achat. En réalité, c'est plus complexe que ça, parce que quand on regarde le détail des produits de consommation, on constate qu'il y a des produits de consommation courante qui ont très fortement augmenté, et notamment le coût énergétique du chauffage dans les habitations.
Et on terminera par ces mots. Merci Thérèse Robière, donc professeure des universités en économie au CNAM et chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïse Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, avec partout de belles éclaircies à l'exception de la pointe bretonne sur laquelle pourraient encore tomber quelques pluies. Quant aux températures, elles seront comprises entre 9 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Antoine Bouchet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Mathieu Laurent pour le prochain journal de la rédaction.